Bonjour à tous et bienvenue dans ce Swiss Bliss. Nous sommes le 5 octobre 2024 et on va faire notre point hebdomadaire sur ce qui s'est passé sur les marchés. Alors pour être franc, c'est un peu un samedi matin assez particulier parce que quand on regarde le bilan de la semaine, quand on regarde ce qui s'est passé, quand on regarde les performances, bah on se dit que finalement on a beaucoup attendu beaucoup de choses pour pas grand-chose. Et finalement le seul point qui ressort de tout ça, c'est que bah, pour l'instant les chiffres de l'emploi sont excellents. Et c'est d'ailleurs le sujet central de ce début de vidéo. Sujet central parce que j'aimerais déjà vous parler de la mentalité du marché. Parce que je crois qu'il y a un truc qui est le plus important que tout à l'heure actuelle, plus important que les nouvelles, plus important que l'aspect technique, plus important que la macro, eh bien c'est tout simplement la mentalité. Parce qu'aujourd'hui, on est rentré dans une phase de mentalité assez exceptionnel. Oui, la mentalité actuelle du marché est juste inouïe parce que si vous prenez tout simplement comment on a démarré notre vendredi, on s'est dit que si les rapports sur l'emploi étaient meilleurs que les attentes, eh bien il fallait acheter les actions parce qu'on avait évité la récession. Ou alors on s'est dit que si le rapport sur l'emploi était inférieur aux attentes, eh bien il fallait absolument acheter parce que la Fed allait baisser les taux. Et puis alors dans le cas utopique où le rapport de l'emploi aurait été conforme aux attentes, eh bien il fallait acheter les actions puisque la Fed était sur la bonne voie pour aller en direction d'un soft lending. Les chiffres de l'emploi donc étaient nettement meilleurs que les attentes et meilleurs que toutes les attentes de tous les analystes. Autrement dit, soit les chiffres sont magouillés pour faire croire que le marché de l'emploi a soudainement retrouvé sa dynamique juste après une baisse de 0,5% sur les taux directeurs et surtout juste avant les élections, ce qui arrange quand même vachement les démocrates. Soit les analystes, le marché, les économistes et la totalité des experts sont complètement cons. Tout simplement. Je vous laisse donc choisir le camp que vous préférez, mais franchement, c'est quand même hallucinant parce que hier, le département du travail a annoncé que l'économie américaine avait créé 254 000 emplois en septembre. Ça signifie qu'ils ont fait juste 107 000 emplois de plus que prévu le mois dernier. Donc, hein, juste au mois de septembre, c'est quand même assez fou l'effet que peut faire une baisse des taux de 50 BP. On m'a toujours dit à moi qu'il fallait une certaine inertie pour sentir l'effet de la baisse des taux. En fait, avec le monde moderne, c'est quasiment immédiat. Par contre, on notera quand même que quand il a fallu monter les taux pour freiner l'inflation, ça a quand même pris 3 ans pour qu'on ait un réel effet et que ça fonctionne. Donc on dirait qu'il y a deux poids, deux mesures. Hein. En fonction de l'efficacité des mesures, si on monte les taux, forcément ça prend plus de temps, mais si on les baisse, ça, tac, c'est immédiat. Et puis alors en plus, le taux de chômage, il est tombé à 4,1%, en dessous des attentes de 4,2%. Donc en fait, si on va très dans les détails, c'était 4,05%, donc on est juste à côté des 4%, c'est donc fabuleux. Et le nombre d'emplois du mois d'août en plus a été révisé à la hausse, passant de 142 000 à 159 000. Cette révision à la hausse de 17 000 emplois, c'est la première révision depuis avril 2024, première révision à la hausse. Et puis, il s'agit de la troisième révision haussière sur l'année 2024, puisque depuis le début de l'année, c'était plutôt tendance de faire des révisions à la baisse. En gros, les chiffres d'hier, c'était pas du tout ce qu'on attendait. Et la probabilité de voir les taux baisser de 0,5% lors du prochain FOMC meeting vient juste de s'évaporer, mais par contre on s'en fout parce que ça veut dire qu'on vient d'inventer la hausse permanente puisque les marchés ne sont plus dans une mentalité où les bonnes nouvelles sont des bonnes nouvelles et les mauvaises nouvelles sont des mauvaises nouvelles, ni dans une mentalité où les mauvaises nouvelles sont des bonnes nouvelles et les bonnes nouvelles sont des excellentes nouvelles. Nous sommes dans une mentalité où toutes les nouvelles sont juste formidables, peu importe la direction. Donc oui, ce qui est assez hallucinant finalement sur ce rapport des chiffres de l'emploi, c'est que c'est une surprise à la hausse, on ne s'attendait pas du tout. La preuve, la totalité des analystes sont à côté de la plaque, je suis pas le seul à avoir anticipé des chiffres pourris, donc ce qui veut dire qu'on est tous complètement à la rue. Mais ce qui est assez impressionnant surtout, c'est que quand vous lisez les médias financiers, les médias Twitter, surtout tous les tweets qui tournent autour de ces histoires de chiffres de l'emploi, il y a de plus en plus de gens qui crient au scandale en disant qu'effectivement ces chiffres sont un peu bizarres compte tenu de la situation. Alors certains sont en train de nous dire oui, il y a des engagements supplémentaires parce qu'il y a bientôt Halloween, parce qu'il y a bientôt Noël, on engage des pères Noël au mois de septembre, c'est assez classique. Et puis donc tout ça fait pousser le nombre de chiffres de l'emploi, ça favorise l'image de marque de Kamala Harris pour les élections, elle est élue présidente, et puis derrière on sort des chiffres catastrophiques au mois de décembre, et puis on dit que de toute façon c'est toute la faute à Biden, et puis de toute façon Biden il est plus là, puis ça ira mieux après. Tout ça est assez fou parce que on voit que les chiffres étaient excellents, que le marché l'a bien pris, puisque le S&P 500 termine au plus haut de la semaine, et quasiment au plus haut de tous les temps. Le Dow Jones est au plus haut de tous les temps. Mais finalement, derrière, les analystes se disent, mais ça tient pas la route et ça ne joue pas. Donc, vous avez deux catégories de personnes. Ceux qui réfléchissent en disant, ça joue pas, j'ose pas y aller. Et ceux qui réfléchissent pas, qui y vont. Et puis, bah, ça joue quand même parce que ça continue de monter. Est-ce que la raison est valable ou pas? Ça, on verra plus tard. Après, les autres nouvelles qu'il faudra retenir cette semaine, eh bien, c'est tout d'abord simplement la guerre. Alors, la guerre ou la possibilité d'un embrasement général au Moyen-Orient n'a toujours pas eu lieu, puisque les Israéliens, à l'heure où je vous parle, n'ont toujours pas réagi. Il semblerait que le président Biden soit capable pour l'instant de réfréner les envies d'attaques violentes sur l'Iran de la part d'Israël, de réfréner surtout les attaques sur les raffineries pétrolières iraniennes. Donc tout ça, c'est plutôt encourageant et plutôt, ça nous permet de respirer un petit peu plus parce qu'on n'a pas vraiment envie de rentrer dans cet embrasement général au Moyen-Orient. Donc c'était un des gros thèmes de la semaine où on s'est beaucoup chauffé. Là aussi, je rappelle qu'il y avait un sondage dans le marché qui disait que 76% des experts s'attendaient à une riposte d'Israël d'ici vendredi soir. Eh ben bam, c'est comme les experts en finance, ils se sont encore plantés. Il n'y a pas eu de réplique avant vendredi soir, donc quid de ce week-end, on verra bien. C'est dommage, les marchés sont fermés, il faudra juste s'occuper du Bitcoin et puis voir ce qu'on peut faire lundi matin, si ça se passe ce week-end, bien sûr. L'autre sujet, c'est la Chine. Alors la Chine, ils étaient fermés toute la semaine, ils rouvriront mardi, donc on n'a pas vraiment pu mesurer l'impact, mais néanmoins, on notera quand même une petite headline que j'ai vue ce matin, comme quoi, alors, depuis le stimulus, qui date de 10 jours quand même, on a déjà vu une augmentation des achats immobiliers. Donc là aussi, je tombe de ma chaise, hein, c'est un peu comme les taux américains, hein, vous baissez les taux de 50 BP, et alors tout le monde commence à engager comme des malades, tout le monde commence à dépenser comme des malades, c'est immédiat. La baisse des taux déclenche un effet positif pour toutes les économies du monde immédiatement dans les semaines qui suivent. C'est juste incroyable. Comme je disais avant, on nous a vendu l'inertie pendant des années, et puis là, inertie, non, il n'y a pas, c'est immédiat. C'est comme un vaccin, ça marche tout de suite. Enfin bref, c'est formidable. Donc, il y a encore une excellente nouvelle, mais là, on a vu en Chine, alors les gens se sont jetés dans la rue à cause de ce stimulus. Alors, personnellement, quand je lis la liste du nombre de baisses des taux qui ont été mis en place et de tout ce qui a été mis en place pour ce stimulus, bah, j'ai juste eu l'impression que ils ont juste coupé partout, mais que juste ces baisses partout qui étaient surtout dirigées pour les banques et pour les grandes sociétés ont fait que tout le monde a eu envie de s'acheter une maison la semaine dernière en Chine. Ça tombe bien, c'était fermé. On verra comment le marché va se comporter à partir de mardi. Mais tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu une grosse folie sur le luxe, bien sûr, une grosse folie à Hong Kong, que certains indices chinois ou hongkongais sont en hausse de 25 à 30% sur 10 jours. Donc je veux bien que ce soit un stimulus économique, mais là on a plus l'impression qu'ils leur ont fait une injection d'adrénaline pour essayer de faire remonter le marché. Donc à un moment donné, je veux bien que ça relance l'économie, je veux bien que la Chine reparte de feu de tout bois ces prochains mois, mais je pense quand même que la verticalité, c'est pas quelque chose qui correspond fondamentalement au marché financier, ou alors à la crypto. Il y a un autre truc, puisqu'on parle d'embrasement économique en Chine, de carton aux États-Unis, puisque l'emploi repart de plus belle. Il y a un autre qui va un petit peu moins bien, c'est l'Europe. Hein. L'Europe, tous les chiffres qu'on a vus cette semaine, alors effectivement, l'inflation est en baisse, mais c'est pas vraiment parce que les taux ont freiné l'inflation, c'est surtout parce que l'économie est en train de ralentir. Ça va de mal en pire. On voit une série de profit warnings sans arrêt sur le secteur automobile et sur d'autres secteurs. Les gens ont ralenti leur consommation. L'Europe est en train de ralentir dans une direction qui ressemble fortement à une récession, même si c'est interdit de le dire parce que c'est péché. Il y a quand même des choses qui commencent à puer en Europe. D'ailleurs, on a vu le reversal sur la semaine du marché européen était quand même assez spectaculaire. Et on sent que là, on commence à douter un petit peu. Oui, c'est vrai, l'inflation est vaincue. Mais l'inflation target, c'était 2% et pas 1,6. Donc du coup, on commence à se poser des questions si on ne va pas rentrer dans une autre situation économique négative qu'on n'a pas forcément envie de vivre. Donc, pour l'instant, on en parle très peu parce que là aussi, on nous encourage pour dire « oui, tout va bien partout en Europe hein. ». Et pourtant, tout ne va pas si bien. Mais pour l'instant, on préfère cacher les problèmes plutôt que les affronter de face. Alors pour l'instant, ça va bien en Europe. Je suis pas convaincu, mais on verra aussi bientôt lors du meeting de la BCE. Là aussi, probablement, ils vont devoir baisser les taux pour marquer un grand coup. Et puis, un point à surveiller aussi, c'est la tech. La tech qui a toujours de la peine à retrouver sa niaque d'il y a quelques semaines. Et même si les marchés sont au plus haut tous les temps, même si le Nasdaq est pas si loin de ses records historiques, on sent quand même que la tech a des problèmes. Alors, à la fin de la semaine qui vient maintenant, on va avoir le début de la saison de résultats. Alors, on va pas commencer par la techno, mais on va commencer bientôt avoir des chiffres dans le secteur qui nous permettront de mesurer si ça continue à avoir des taux de croissance aussi ahurissants qu'on a eu ces quelques mois. Spoiler alerte, je pense pas qu'on sera sur le même taux de croissance, mais tout ça devra être digéré en fonction des attentes et des prévisions de tout un chacun. Donc ce sera une grande discussion qui va bien nous occuper au mois d'octobre, et pour l'instant il faut quand même retenir un truc, c'est que la tech, elle a quand même un tout petit peu de peine à avancer. En Suisse, au niveau du chômage, on a vu une légère hausse du chômage le mois dernier, donc plus 0,1% sur les nouveaux chômeurs et plus 0,1% sur les gens qui sont toujours au chômage. Donc pour l'instant, il n'y a pas de grosse surprise, ça continue dans la bonne direction. Quand on voit le taux net de sans-emploi en Suisse qui est de 2,5%, on se dit que pour l'instant ça va bien et il n'y a pas de quoi paniquer non plus. Par contre, on a eu un message du COF qui a estimé que le marché de l'emploi allait se dégrader très prochainement. Donc malgré les chiffres corrects au niveau du chômage qui sont sortis, attention, parce que les grosses têtes de l'EPFL à Zurich nous ont mis en garde contre une quasi-certitude selon leurs calculs, puisque les maths ne mentent jamais, de ralentissement de l'économie et donc d'augmentation du chômage ces prochains temps, donc méfiance. Et puis, pour le côté business, on notera une forte augmentation des nuitées d'hôtel au mois d'août par rapport au début de l'été, donc ça a bien accéléré sur la fin, donc là aussi, c'est plutôt une bonne nouvelle au niveau du tourisme suisse. Les performances du mois, alors vous voyez, malgré ces excellentes nouvelles au niveau des chiffres de l'emploi, eh bien, c'est pas une super semaine, hein. Alors on voit bien sûr que le Hang Seng a pris 10,2%, Shanghai en a pris que 8, mais ils étaient ouverts un seul jour la semaine dernière. Et puis le reste, eh bien, c'est péniblement à l'équilibre, 0,22% de hausse sur le S&P, 0,10% sur le Nasdaq. Vous voyez que c'est toujours le S&P qui monte plus que le Nasdaq, ce qui est plutôt inhabituel. Le SOX est en baisse pour la semaine, donc là aussi, vous voyez que c'est pas la niaque totale. Et puis alors le reste, alors le SMI, moins 1,9%, et puis c'est l'effondrement ailleurs, le Nikkei, moins 3%, le CAC, moins 3%, le MIB, moins 3,2%, et le DAX, moins 1,8%. Ce qui est assez intéressant à noter sur ce graphique, c'est que finalement, vous avez le Dow Jones qui termine en hausse de 0,09% sur la semaine, et vous avez le Dow Jones Transportation qui est en baisse de 2,3%. Et dans la théorie de Dow, on dit que pour qu'un marché puisse continuer à monter, il faut que le Dow Jones soit aligné avec le Dow Jones Transportation dans des transports. Donc on sent que là, il y a quand même une divergence. Et puis c'est probablement dû au fait aussi que Spirit Airlines est au bord de la faillite et donc ça pèse un petit peu sur les compagnies aériennes. Mais voilà, donc c'est pas forcément un signe hyper bullish le fait que le Dow Jones ne soit pas forcément aligné avec le Dow Jones des transports. Sur la Suisse, alors on va y revenir dans les vedettes, mais ça va être assez court aujourd'hui parce que franchement, quand on regarde les variations, alors Richemont qui perd 2,8%, Logitech qui perd 2,6%, Swissre moins 2,26%, mais Roche qui perd 5%, Geberit qui perd 5,7%, Sika qui pèse 5,8%. Et tout ça, en fait, quand vous regardez un peu les nouvelles, ben, il n'y a rien, il n'y a pas beaucoup d'informations, il n'y a pas eu beaucoup de réelles informations boursières ou fondamentales qui auraient justifié ces prises de profit ou, dans le cas de Sonova, une hausse de 4%. Donc on va y revenir, mais vous verrez que cette semaine était relativement calme en termes d'informations puisque tout le monde avait l'air d'être concentré sur la guerre, la Chine et puis les chiffres de l'emploi américain. Ce qui fait qu'il n'y a pas eu beaucoup d'infos, mais par contre, il y a eu une grosse activité des analystes. On va y revenir tout de suite. Alors, petit point technique rapide maintenant. Alors, vous voyez que le SMI, n'a pas foutu grand-chose cette semaine, mis à part s'effondrer gentiment, mais sûrement. On termine donc la semaine au plus bas des plus bas de ces derniers temps. Vous voyez que on peut essayer de grappiller une espèce de trend intermédiaire, mais on a l'impression qu'on veut quand même aller chercher les 11 890, voire peut-être les 11 770, faire une tentative en dessous de cette moyenne mobile de cette résistance de canal ascendant, un peu à l'image de ce qu'on a fait à cette époque-là. Donc à surveiller ces prochains temps. Je vous cache pas que la dynamique du marché suisse pour l'instant est relativement faiblarde de par le fait que nos vedettes Roche, Novartis, Nestlé ne veulent pas avancer. C'est clair que sans eux, ce sera très très compliqué d'avoir un semblant de dynamique. Et on sent quand même que les marchés, même s'il y a que des bonnes nouvelles et que tout le monde est bullish, il y a quand même une certaine, des certains doutes sur l'avenir des marchés. Et les gens sont un tout petit peu moins à l'aise. Même si, comme je vous l'ai dit en ouverture, les bonnes nouvelles restent des bonnes nouvelles et les mauvaises nouvelles sont presque des excellentes nouvelles. Le S&P 500, on va pas passer 15 jours dessus. Vous voyez qu'on se balade pour l'instant dans un range ultra serré de quelques points, puisque les bas de ces derniers temps, c'est à 5675 et que les hauts sont à 5760, donc moins de 100 points de range sur le S&P 500. On doit toujours casser cette résistance pour voir si on peut accélérer quelque part. On a l'impression qu'on veut y aller parce qu'à chaque fois qu'on a le sentiment que ça s'affaiblit, comme on l'a eu en début de semaine, eh bien ça ne s'affaiblit pas. Je vous cache pas que le prochain mouvement qui pourrait se déclencher dans cette direction pourrait être lié à une éventuelle riposte israélienne. Mais si ça ne vient pas, peut-être que les résultats pourront nous emmener un peu plus haut, mais il faudra vraiment surprendre à la hausse les attentes des analystes. Bon, je notais bien que les analystes ont dû bien réviser leurs attentes, donc on a encore un peu d'espoir. Le Nasdaq, je vous le disais tout à l'heure, c'est dur, c'est très très dur. Vous voyez que la dynamique n'est pas là, hein. Alors là, on a vraiment cette zone de résistance-support qu'on avait sur les 19 940 sur le Nasdaq qui fait office de juge de paix. Alors un coup en dessus, un coup en dessous, mais on n'arrive pas à s'éloigner de cette zone-là. Donc il va falloir trouver un moyen de sortir de cette zone d'une manière ou d'une autre. Mais je vous l'ai dit, hein, pour l'instant, là, le sentiment n'est pas hyper bullish sur la tech. On est très prudent. On attend de voir un petit peu à la suite des événements. Vous voyez que la bonne nouvelle, c'est qu'on est venu combler ce gap, hein. Ça, c'était assez fantastique quand même ces derniers temps. Là, on est juste venu recombler ce gap. Donc ça, c'est plutôt bien. Enfin, c'est plutôt bien dans le sens que ça ouvre aussi la possibilité d'une correction. Mais on voit quand même qu'on hésite beaucoup. D'ailleurs, si vous regardez en zoomant un peu dessus, on voit que la dernière séance de cette semaine, ce candlestick, a ouvert très bas à cause des incertitudes. Puis finalement, on s'est satisfait des chiffres de l'emploi, même si, comme je l'ai dit, une grande partie pense que c'est magouillé. Ça nous permet de terminer en hausse. Mais on voit quand même qu'il y a quand même beaucoup de séances où pour l'instant on fait en haut ou en bas, mais on ne sait pas vraiment où on va. Le SOX, pareil, pareil, vraiment pareil. Bon, vous me direz bien sûr, c'est le Nasdaq et le SOX sont frères de semi-conducteurs, donc forcément il y a un lien dans tout ça, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, ça résume assez bien la chose, c'est que le Nasdaq a de la peine à monter parce que les semi-conducteurs montent plus, et le SOX a de la peine à monter parce que les semi-conducteurs montent plus. Donc le chart se passe de commentaires. On est en train de chercher là aussi notre bonne point de sortie. Et là aussi, on a cette espèce de zone où on se traîne là autour des 5200, 5250. On n'arrive pas à bouger. Il faudra prendre une direction. Par rapport aux chiffres de Micron qui sont sortis il y a 10 jours, on aurait pu s'attendre à un peu mieux. D'ailleurs, je pense même que heureusement que Micron a sorti des bons chiffres parce que sinon, on serait bien plus bas sur le SOX. Il faudra surveiller ces prochains temps, bah, les résultats. Et là, je rappelle aussi que sur le SOX, eh bien, il y a toujours ce fameux gap à aller combler ici. Le DAX, bah, vous voyez, on a commencé la semaine en haut, on finit la semaine sur les chapeaux de roue grâce aux chiffres de l'emploi américain. Je vois vraiment pas le rapport avec l'Allemagne, parce que comme je vous l'ai dit, bah, quand on voit les chiffres du CPI de l'Allemagne qui sont en train de fondre comme neige au soleil, on est content, on était content de voir baisser l'inflation ces derniers mois, ces dernières années. Mais aujourd'hui, on la voit baisser et on a l'impression qu'elle va jamais s'arrêter de baisser. Et un pays qui vient en déflation, c'est pas une bonne nouvelle non plus. Alors, on n'y est pas encore, mais pour l'instant, on sent quand même que c'est très très dur au niveau industriel et économique en Allemagne. Donc attention, bonne nouvelle néanmoins, on est venu combler aussi ce gap. Donc au moins, on se laisse pas ça derrière et on peut continuer à monter tranquillement sur l'Allemagne si on veut continuer à monter. Alors on pourra toujours trouver des encouragements, et les encouragements, ils passeront par là. Vous voyez qu'on a une espèce de tendance haussière qui nous permet de nous dire, bah, on est posé là, on s'est posé là, après on s'est posé. Alors d'abord, on s'est posé ici, on tient notre tendance, on vient se poser une deuxième fois ici. Prochain mouvement à la hausse, c'est facile, elle est belle, tranquille, il n'y a pas de souci à se poser. Il n'y a pas de question à se poser, pardon. Je pense que l'Allemagne peut continuer, mais moi, ce qui me dérange, c'est la pente. La pente de la hausse allemande, pour moi, est beaucoup trop raide compte tenu de la croissance et de ce qui se passe aujourd'hui dans l'économie allemande et européenne. Le CAC 40, le Muppet Show continue, je ne vais même plus commenter, ou presque. On a un range qui passe par 7700 et qui passe par 7400, allez, peut-être 1400, on va dire. Et dans ce range-là, bah, pour l'instant, on bouge compte tenu de ce qui est en train de se passer. Politiquement, ça reste le grand Muppet Show. Il n'y a rien qui change fondamentalement. Ils vont taxer et surtaxer de plus en plus le secteur automobile, les malus et les gens qui ont beaucoup d'argent. Enfin bref, une belle politique de droite. Alors qu'en fait, les Français ont quand même voté principalement pour une politique de gauche récemment, même si on peut se poser des questions sur l'état de la gauche, mais peu importe. Voilà, le pays est toujours dans une espèce de d'instabilité totale. Leur président n'est quasiment plus en France, probablement qu'il a peur de se faire jeter des pierres et puis qu'il est beaucoup à l'étranger. Enfin, on voit que pour l'instant, ça va pas très très loin. Ce qui nous a sauvé un petit peu ces derniers temps, c'était le rebond de la Chine, le rebond du luxe. Mais cette semaine, on a des doutes par rapport à l'économie globale sur le marché français. Donc voilà, on est au milieu de nulle part et on attend de trouver une raison pour sortir dans un sens ou dans l'autre. Le pétrole, alors le pétrole, contre toute attente, bien sûr, bah, c'est drivé par ce qui se passe en entre Israël et l'Iran et le Liban, etc., etc. Donc on va pas faire de la géopolitique. Bah, ce qu'il faut retenir, c'est que depuis que ça frise le code, et bah, le pétrole monte. Biden fait des commentaires tout azimut un jour pour dire qu'il pense que les Israéliens vont attaquer les raffineries. Le lendemain, il revient en disant qu'il pense qu'il a réussi à calmer les Israéliens qui n'attaqueront pas les raffineries. Bref, pour l'instant, le pétrole est à la recherche d'informations et à la recherche d'actes concrets. D'un point de vue technique, bah, vous voyez que cette tendance descendante a été littéralement explosée ces derniers jours à cause de ce qui se passe, hein, bien sûr. Il n'y a rien de fondamental là derrière. Le reste, si on réfléchit un petit peu, l'économie repart, la Chine repart, bah, normalement le pétrole devrait repartir à la hausse aussi. Mais évidemment, par contre, on sait que les Saoudiens et les Américains continuent de produire comme des malades pour essayer de garder un baril de pétrole relativement bas. Parce que si vous mélangez l'aspect pétrole qui remonte, les taux qui sont baissés, l'économie qui repart, c'est un scénario parfait pour voir une inflation qui explose. Et ça, ce n'est pas vraiment ce qu'on a envie de voir aujourd'hui. Donc le pétrole est très lié à tout ça, et forcément très lié à ce qui va se passer entre Israël et l'Iran ces prochains jours. Dans les vedettes de la semaine, alors comme je vous le disais, la thématique de cette semaine, c'est pas il y a de l'info, donc on joue l'info ou les titres bougent en fonction de l'info. Cette semaine, ça bouge en fonction des upgrades et des downgrades des différents analystes. Alors on commence tout de suite avec Rush. Alors Rush qui s'est fait déglinguer sur la semaine, qui perd 5% finalement sur pas grand-chose. Parce qu'au début de la semaine, il y a eu l'analyst day, donc en gros le jour où Rush se présente aux analystes, donc c'est une grande séance où ils donnent leurs prévisions, les médicaments qui sont en cours, ceux qui pensent qu'ils vont fonctionner. Alors le CEO a beaucoup parlé de la thématique de l'obésité, bien sûr, que c'est là-dedans qu'il s'axait principalement. Ils développent de plus en plus de médicaments. Ils estiment qu'ils ont plusieurs médicaments que l'on peut utiliser, combinés, pour faire maigrir les gens. Donc toutes des choses, bien évidemment, ils se sont montrés un petit peu sur leur meilleur jour pour essayer de voir un peu dans quelle direction ils pouvaient dynamiser les choses. Donc ils sont, c'est un espèce de beauty contest, ils sont là pour essayer d'expliquer aux gens, aux analystes surtout, et les gars, il faut voter pour nous parce qu'on est super. En gros, c'est ça. Et bah, ils n'ont pas très très bien réussi, le message n'est pas bien passé, puisque derrière, dans la foulée, durant le reste de la semaine, eh bien, la plupart des analystes sont venus s'exprimer par rapport à cet Investor Day, et ils sont ressortis en disant pas convaincu, pas emballé. Alors vous avez Goldman Sachs qui n'a pas changé ses price targets ni ses recommandations, mais qui s'est exprimé en disant que c'était pas terrible et pas convaincu, pas convaincant. Vous avez JP Morgan qui, eux, ont passé sur vente carrément. Et puis vous avez d'autres brokers un peu moins importants qui, eux, sont venus dire ah, on downgrade, on baisse le price target. Donc voilà, un Investor Day qui s'est mal passé. Sur le papier, les annonces étaient plutôt encourageantes par rapport à cette thématique de l'obésité. Maintenant, on voit que la plupart de certaines pharmas se dirigent vraiment vers cet objectif qui est le Graal de ces prochaines années, semble-t-il. Et bah, par rapport à ça, ça n'a pas plu aux analystes. Donc le bon Rush a vécu une sale semaine et termine donc en baisse de 5%. Voilà, le graphique bah, se passe de commentaires. Il n'y a pas vraiment eu une séance où on était super bien disposé sur le bon Rush. On finit au plus bas de la semaine. Et on revient pile poil sur la moyenne mobile des 200 jours sur les 256 francs suisses sur le bon Rush. Donc autant vous dire que si maintenant on casse là, je pense qu'on a encore un bout de chemin à faire à la baisse. Techniquement, bah, on est dans une tendance baissière qui est en train de se dessiner gentiment. Vous voyez que bon, c'est un peu tiré par les cheveux, mais si on casse la moyenne mobile, je pense qu'on a un retour très très bas sur le bon rush parce que les prochains supports sont très très loin. Donc, la semaine qui va se dérouler dorénavant sur rush, quand on voit là où on se trouve, c'est un exercice d'équilibre instable. Il vaudrait mieux qu'on n'ait pas cherché beaucoup plus bas. Similaire sur Geberit, il y a eu un downgrade cette semaine sur Geberit. L'analyste s'est exprimé en disant que c'était pas mal, qu'ils n'étaient pas vraiment négatifs, mais que pour l'instant, ils pensaient que Geberit aurait vraiment de la peine à augmenter ses ventes ces prochains temps. Donc c'est pour ça qu'il n'y avait pas un monstre enthousiaste. Bam! Geberit s'est aussi fait taper sur le groin. Là aussi, ça se passe de commentaires. Retour sur la moyenne mobile des 200 jours sur Geberit, qui était relativement bien disposé en haut de ce range ces derniers temps. Vous voyez qu'on avait quand même gentiment commencé à dessiner une zone de stabilisation. Alors, on y est toujours, mais là aussi, comme le bon rush, il vaudrait mieux pas aller chercher beaucoup plus bas sur Geberit ces prochains jours. Vous voyez que là, cette zone-là, c'est vraiment la zone critique. Et ce qui est assez rigolo, c'est que finalement, on revient tester la moyenne mobile des 200 jours, comme rush, comme le SMI. Et finalement, tout se recoupe, hein, on est tous dans la même tendance. Mais voilà, encore pas de mauvaises nouvelles sur Geberit, mais pas forcément des encouragements de la part de la communauté des analystes. Chez Sika, c'est exactement pareil. Je vous refais même pas, je vais pas vous parler pendant 15 minutes de Sika. C'est exactement la même situation pour l'instant. Déception, downgrade. Et finalement, Sika a également vécu une très mauvaise semaine. Mais là encore, rien de vraiment fondamental. Vu le business dans lequel se trouve Sika, on peut imaginer que eux aussi sont un peu dans la même mouvance que Geberit, donc mauvaise semaine pour Sika. Et puis là aussi, vous voyez sur le graphique que Sika revient sur les mêmes niveaux, moyenne mobile des 200 jours. Encore une fois, il n'y a pas grand-chose d'autre à rajouter. Hein. On a une résistance dans la zone des 285 qu'on n'a pas réussi à casser. Et bam, depuis, on revient de nouveau sur les 260 au niveau de la moyenne des 200 jours. Là aussi, attention à ne pas céder à la baisse. Et puis dans l'autre sens, puisqu'on est dans la saison des upgrades et des downgrades, eh ben nous avons Sonova qui s'envole. Là aussi, il y a eu deux ou trois rapports, cette fois positifs, qui ont été postés sur Sonova. Bon, il faut aussi voir que Sonova se sont fait déglinguer ces derniers temps à cause des nouveaux AirPods d'Apple, qui potentiellement pourraient être une aide pour les gens qui sont malentendants, donc du coup faire de la concurrence à Sonova. Bref, il y a eu quand même pas mal de réflexions, parce qu'effectivement, ça aide une certaine catégorie de malades, mais pas forcément la totalité, donc ça reste quand même un business assez minoritaire. Et depuis, eh ben, on a eu quelques upgrades qui fait que cette semaine, Sonova faisait partie au moins des winners de la semaine. Et vous voyez que la bonne nouvelle du point de vue technique, c'est que finalement, eh ben, le rebond nous a permis, donc il y a eu cette espèce de phase négative à cause de l'histoire d'Apple, et que finalement, eh ben, le rebond technique nous a permis de casser cette résistance qu'on a ici en rouge, et puis derrière d'avoir aussi un espèce de biseau ascendant qui serait plutôt enthousiasmant sur Sonova si cela continuait à aller beaucoup plus haut. Mais en tous les cas, pas mal de commentaires positifs chez les analystes. On notera que Richemont a corrigé cette semaine. Alors Richemont avait pris quasiment 20% la semaine dernière, donc forcément on peut se dire prise de profit après un rebond aussi massif. Bien sûr que le stimulus chinois va aider Richemont sur le moyen long terme, mais sur le moyen long terme, pas sur les prochaines 24 heures. Il va falloir du temps pour que les choses se remettent en place. Et pour l'instant, on l'a vu en début de cette vidéo, les Chinois, ils ont commencé par acheter des maisons, pas forcément des bijoux. Donc voilà, Richemont, il y a eu quelques prises de profit, mais rien de spécial de ce côté-là. Il faut aussi retenir que Goldman Sachs a upgradé Novartis, mais le titre terminait quand même en baisse sur la semaine. Donc tout le monde s'en fout quand on arrive à des stades où vous avez une boîte comme Goldman Sachs qui upgrade Novartis et que le titre ne monte pas, eh bien c'est que pour l'instant on n'a pas vraiment envie et qu'on n'a pas super confiance. Bon, il est vrai que Novartis par rapport à d'autres est quand même à des niveaux beaucoup plus élevés et on peut se dire qu'à ces niveaux-là, elle va quand même avoir plus de peine à monter à cause du manque d'oxygène, ne serait-ce qu'à cause de ça. Et puis Nestlé, rien de spécial, le titre terminait aussi en baisse cette semaine. Pas beaucoup, mais quand même, là aussi, il y a eu des rapports d'analyse qui ont été publiés, et là aussi, négatif, prudent, pas enthousiasmé, c'est un peu les mots qui ressortent aujourd'hui. En gros, Nestlé, personne ne l'aime. Et c'est un peu le problème que le marché suisse a aujourd'hui, c'est que personne n'aime Roche. Les gens ont des doutes sur Novartis en se disant est-ce qu'elle peut vraiment monter beaucoup plus haut. Et puis derrière, eh ben, vous avez encore tout le monde qui déteste Nestlé. Donc quand vous avez Novartis qui ne monte plus, Roche que personne n'aime et Nestlé que personne n'aime, c'est difficile de faire monter le marché suisse. Et c'est exactement ce qui se passe pour le moment. On notera encore une petite news au niveau de l'UBS. L'UBS qui est en plein procès pour l'histoire de la mafia bulgare. Alors, la mafia bulgare, c'est système de blanchiment d'argent qui a été mis en place par le Crédit Suisse. L'UBS, comme vous le savez, a racheté le Crédit Suisse et maintenant il se retrouve au tribunal pour essayer d'éponger les conneries qui ont été faites à l'époque au Crédit Suisse. Le problème, c'est que l'UBS ne reconnaît pas ces conneries puisque le Crédit Suisse n'existe plus. Le problème, c'est que le juge, lui, il pense qu'ils sont fous puisqu'ils ont racheté le Crédit Suisse dans sa globalité, donc ils prennent avec les bonnes choses et avec les mauvaises choses. Quand vous rachetez une boîte, vous ne pouvez pas dire oui, le bâtiment à la Bahnhofstrasse, là je le veux bien, par contre, le truc tout pourri qui traîne dans un coin avec des avocats au cul, je préfère ne pas le prendre. Non, vous prenez tout, donc vous assumez tout. Et l'UBS est en train d'assumer péniblement ça au tribunal. Ça n'aura pas un gros impact sur le titre, mais pour l'instant, on parle plus de l'UBS et de la mafia bulgare, et que de l'UBS et de sa masse sous gestion qui ne cesse d'augmenter. À retenir quand même, mais c'est assez rigolo à suivre de temps en temps les commentaires qui sortent de ce tribunal, l'UBS qui refuse de parler, le juge qui les oblige à parler, c'est toujours assez marrant, puisqu'ils ne sont pas d'accord entre eux sur la notion justement de à qui appartient vraiment le Crédit Suisse. Ah oui, bah il appartient à l'UBS maintenant. Ce qu'il faut retenir en ce samedi matin pour vous préparer au lundi qui arrive, c'est tout d'abord que Ubisoft serait la cible d'un takeover de l'équipe de Tencent. Donc le titre a pris 33% là-dessus, donc ça va probablement tourner un peu autour la semaine prochaine. Ubisoft, c'était la daube de service que plus personne ne voulait depuis quelques semaines. Et ben voilà, il y a quand même quelqu'un qui a envie de racheter la franchise d'Assassin's Creed, même si pour l'instant ils ont du retard pour la sortie. Donc à suivre, takeover d'Ubisoft potentiel, je dis bien potentiel. On aura aussi la semaine prochaine la rouverture de la Chine. Ils sont encore fermés lundi, mais rouvriront mardi. Donc on verra l'impact réel que ça va continuer à donner sur les marchés financiers. On a vu Hong Kong, c'est quand même relativement bien comporté. Donc la Chine a un peu de retard. Ça pourrait continuer encore un peu dans la mouvance. Surtout que maintenant, ils sont tous en train d'acheter des maisons depuis que le stimulus est en place. Et puis, eh ben, la semaine qui nous attend, c'est la semaine du CPI. Les chiffres de l'inflation aux États-Unis qui sortiront dans le milieu de la semaine. Donc ça, ce sera un des gros sujets. On aura l'occasion, bien sûr, d'en reparler. Mais le gros sujet qu'il faut retenir sur ce Swiss Bliss et sur cette fin de semaine, cette fin de première semaine du mois d'octobre, c'est que les chiffres de l'emploi étaient nettement meilleurs qu'attendus, mais que globalement, personne n'y croit. Voilà, moi je vous souhaite une excellente journée, un très bon week-end. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker cette vidéo, de la partager, et surtout de venir me retrouver lundi matin pour un nouveau Morning Bull Live. Soyez forts et excellent week-end à tous. Bye bye.